C'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Baptiste, bonjour à tous.
Ce matin, Julie, entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, le ton et les mots se sont encore durcis ce week-end.
Oui, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, s'est exprimé hier sur la télévision publique. Il a dit n'avoir aucun doute sur le soutien du Rwanda à la rébellion du M23 qui fait à nouveau usage de ses armes dans l'est du pays contre l'armée congolaise. Le gouvernement rwandais, lui, a déjà prévenu que toute attaque sur son territoire provoquerait une riposte immédiate. Depuis le début des années 90, la région congolaise du Kivu est le théâtre de violences sanguinaires. Il faut rappeler que c'est dans cet immense pays de la région des Grands Lacs que se déroule l'un des conflits les plus meurtriers depuis la Seconde Guerre mondiale. Avec Christophe Vogel, il y a 10 jours, nous expliquions le retour de ce mouvement rebelle dit du 23 mars, le M23, dans un contexte pourtant de négociations de paix entre Kinshasa et les groupes armés. Quelle est la bonne échelle pour comprendre ce qui se passe en ce moment dans le Kivu et qui inquiète de plus en plus les chancelleries africaines? Bonjour Séverine Autesserre.
Bonjour Julie Gacon.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Merci de nous faire le plaisir de venir ici en studio. Vous êtes professeure des universités et directrice du département de sciences politiques à l'Université Columbia à New York. Vous venez de traduire en français votre récent livre The Frontline of Peace, paru aux presses de l'Université d'Oxford. Alors les autorités congolaises aujourd'hui désigne comme responsable de ces violences les 3 voisins orientaux du Kivu, qui sont le Rwanda, le Burundi, mais aussi l'Ouganda, dont il est habituellement plus proche. Peut-être est-ce une façon de se dédouaner, on va y venir, mais en attendant, sur quels éléments tangibles sont fondées ces accusations ?
En fait, ça dépend de quel pays on parle. Parce que si on parle de l'Ouganda, c'est une intervention qui est très officielle. On a 4000 soldats ougandais qui ont été invités à venir combattre leur groupe rebelle, les ADF, depuis novembre 2021. Par rapport au Burundi, tout le monde le sait. Bon, le Burundi le nie et le Congo, le gouvernement congolais ferme les yeux. Mais on sait qu'il y a des soldats qui sont venus dans les Kivu pour combattre leur groupe rebelle aussi. Par rapport au Rwanda, par contre, le gouvernement congolais accuse le Rwanda de soutenir le mouvement rebelle, le M23. Par contre, le Rwanda nie complètement jusqu'à présent. Mais on sait que historiquement, ils ont soutenu le M23. Ils sont intervenus au Congo régulièrement depuis 20-25 ans. Donc, ce ne serait vraiment pas étonnant s'ils étaient encore en soutien de cette rébellion.
Et on sait aussi qu'il y a des forces rebelles rwandaises au Congo, en République démocratique du Congo. Vous parliez des ADF pour l'Ouganda qui sont aujourd'hui liés à l'État islamique, mais le Rwanda a des forces démocratiques de libération, on les appelle comme ça. C'est très poreux en fait, cette région.
Oui, tout à fait. Les frontières sont extrêmement poreuses quand on se balade du côté des Kivu. Parfois, on va d'un côté, de l'autre, on ne sait pas du tout si on est encore au Rwanda, au Congo, si on est passé en Ouganda. Les frontières sont poreuses. C'est aussi une région qui est extrêmement dense. On voit des magnifiques forêts. Mais ce qui fait aussi que c'est une base arrière extraordinaire pour des groupes armés comme les forces démocratiques de libération.
Et à l'inverse, le M23, donc ce groupe rebelle qui s'oppose aujourd'hui à l'État congolais, on va y venir, aux autorités de Kinshasa, ont très longtemps, enfin pendant plusieurs années, trouvé refuge au Rwanda. Donc tout ça est très imbriqué.
Tout à fait, au Rwanda et en Ouganda aussi.
Alors, est-ce que c'est aussi toujours une affaire de ressources naturelles ? C'est-à-dire qu'est-ce que la question minière est toujours au cœur de ces conflits, comme il y a 20 ans, dans cette partie de la République démocratique du Congo ?
Alors ça, encore une fois, ça dépend du groupe armé, ça dépend de qui on parle. Mais ce qui est important de savoir, c'est que, d'après le Trésor américain, 90% des ressources minières de l'or produit dans les Kivu est exporté illégalement et la plupart transitent par le Rwanda et l'Ouganda. Le Rwanda et l'Ouganda sont des pays qui n'ont pas d'or ou quasiment pas d'or sur leur territoire. Et pourtant, quand on regarde la liste de leurs exportations officielles, on voit l'or parmi les plus grosses exportations.
C'est pour ça, c'est pour toutes ces raisons qu'aujourd'hui les autorités congolaises accusent ses voisins de l'Est d'alimenter les tensions dans le Kivu, sans pour autant minimiser le rôle de ces pays. Vous nous invitez, Séverine Autesserre, à chercher plus loin. Dans quelle mesure aujourd'hui ces groupes rebelles qui sévissent dans l'Est de la RDC, donc le M23 et l'un d'eux, dans quelle mesure se battent-ils cette fois contre l'État congolais ? Est-ce que c'est lui leur ennemi désigné ?
Oui, donc c'est fascinant parce que quand on parle avec ces groupes rebelles, ils vont nous dire, déjà, faut penser que les groupes rebelles, il y en a plus de 100, il y en a 120 environ, des groupes rebelles congolais, et en plus, on a les groupes rebelles étrangers. Et quand on parle avec eux, la dernière fois que j'étais au Congo, ça devait être il y a quelques mois, je discutais avec un combattant d'un groupe rebelle et qui me disait, ah oui, nous sommes contre le gouvernement congolais, c'est pour ça que je me bats, et contre le Rwanda. Et je lui dis, ah oui, c'est quoi votre problème avec le gouvernement congolais? Il me dit, ah, Kabila a fait ceci, Kabila a fait cela.
Joseph Kabila.
Joseph Kabila, je lui dis, mais c'est plus le président, Joseph Kabila. Ça fait plusieurs années qu'il n'est plus président. Ah, maintenant, c'est Félix Tshisekedi. Et le combattant me regarde et me fait, ah oui, mais le gouvernement, non, je me bats contre le gouvernement. Et puis, je continue à discuter avec lui, hein, et je m'aperçois que, comme d'habitude, c'est pas un problème national ou international, mais la raison pour laquelle il se bat et pour laquelle son groupe se bat, c'est vraiment des enjeux locaux. Des enjeux autour de la terre, des enjeux autour du pouvoir coutumier, du pouvoir local dans son village.
C'est-à-dire qu'au bout de, à la fin de chaque discussion, on vous dit, on m'a volé ma terre, c'est ça? Qui a volé la terre de qui? Est-ce que ça se passe entre voisins ou est-ce que vraiment l'État congolais est venu prendre des terres à ses combattants?
Alors, l'État congolais a pris des terres, mais dans le passé, on parle des années 80, etc. Maintenant, c'est plutôt des comme vous disiez, des combats entre voisins, entre membres de la même famille, entre différents clans, entre différents villages. Je peux vous raconter une histoire?
Bien sûr, une autre.
Donc, une autre. Il y a très longtemps, donc c'était pratiquement 20 ans, un de mes premiers séjours au Congo, je discutais avec une femme qui était venue au centre nutritionnel de Médecins Sans Frontières et qui était, son petit était vraiment en très mauvais état. Et elle me racontait que dans son village, elle pouvait plus cultiver sa terre et c'est pour ça que elle et son petit étaient vraiment malnourris, en état de malnutrition. Et elle m'expliquait que toutes les semaines, le groupe rebelle venait pour violer les femmes et pour tout piller, et qu'elle passait son temps à aller se cacher dans la forêt, revenir, aller se cacher dans la forêt, revenir. Et je lui disais, mais Isabelle, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas partie? Et elle me répond, mais c'est parce que les groupes rebelles, ils veulent me prendre la terre, et moi, mon lopin de terre, j'en ai besoin parce que sinon, je n'ai plus rien. J'en ai besoin pour cultiver, j'en ai besoin pour pouvoir me nourrir, pour pouvoir nourrir mon enfant. Peut-être qu'un jour, j'aurai suffisamment d'argent, je vendrai au marché, je pourrai envoyer mon enfant à l'école. Et puis la terre, c'est ce qui me donne un statut dans mon village.
Donc c'est aussi symbolique.
Exactement, c'est symbolique, donc c'est économique et symbolique, c'est hyper important.
Est-ce qu'on peut aussi parler de conflits entre agriculteurs et éleveurs, comme on le voit au Sahel, avec les Peuls qui pour la plupart sont des éleveurs de bétail?
Oui, tout à fait. Par exemple, entre les Banyamulenge, qui sont un groupe qui habite sur des collines du sud Kivu, et les peuples de la région, les groupes ethniques de la région, on voit des agriculteurs, donc les groupes ethniques de la région, et les cultivateurs, les Banyamulenge. Les Banyamulenge doivent faire passer leurs vaches, les amener au pâturage en été et puis les descendre en hiver. Et en passant, les vaches ont tendance soit à manger les cultures, soit à
les écraser,
exactement, les piétiner, elles sortent du chemin. Et ça crée énormément de tensions parce que forcément, si votre lopin de terre, votre culture, c'est la seule chose que vous avez pour survivre, et pour envoyer vos enfants à l'école et pour vous vêtir, quand des vaches vont dessus et détruisent tout, vous êtes extrêmement fâchés.
Et c'est ce qui crée des tensions, notamment avec les agriculteurs Maïmaï. Et pourtant, on continue à désigner, et les autorités congolaises aussi, ces Banyamulenge comme une ethnie d'origine rwandaise et la cinquième colonne du Rwanda. Mais finalement, qu'est-ce qui importe le plus localement? Est-ce que c'est qu'ils sont d'origine rwandaise ou c'est parce qu'ils sont éleveurs?
C'est un petit peu tout. Simplement, il faut savoir que les Banyamulenge, très, très régulièrement, ils sont contre le Rwanda. Ils se sont battus très souvent contre le Rwanda.
Quelle est la meilleure échelle pour comprendre les violences dans l'Est de la République démocratique du Congo? L'invité des enjeux internationaux ce matin est la chercheuse Séverine Hautesserre.
Séverine Hautesserre, est-ce que ces dimensions locales, voire micro-locales, sont prises en compte dans les accords de paix tels que ceux qui ont lieu en ce moment à Nairobi, au Kenya, où les autorités congolaises essayent de négocier avec ces groupes rebelles? Vous disiez, ces groupes armés, ils sont plus de 100 aujourd'hui. Il n'y a pas que le M23 qui tire aujourd'hui dans l'Est de la RDC. Mais est-ce que ces dimensions dimensions locales que vous venez de nous expliquer, elles sont connues, comprises, appréhendées et surtout, est-ce qu'elles servent de base de discussion ?
Absolument pas du tout. Et c'est ça le gros problème avec les discussions de paix en ce moment à Nairobi et toutes les discussions de paix. On en a eu des processus de paix au Congo depuis 20 ans et c'est pas uniquement le Congo. Hein. En général, tous ces sommets pour construire la paix, c'est vraiment des sommets qui vont de haut en bas, qui s'appuient sur les élites, sur les gouvernements, sur les grands chefs rebelles et qui excluent complètement les activistes locaux et les combattants locaux. C'est vraiment des processus de paix qui se basent sur une conception très standardisée de la paix, qui pense que les élections vont amener la paix et la démocratie, qui pense qu'en venant de l'extérieur, on peut tout régler. Et c'est une conception qu'on voit partout, mais qui ne marche absolument pas.
Un schéma de peace building, comme on dit, qui s'applique partout. Il y a pourtant des exemples dont les négociateurs pourraient s'inspirer, et notamment un exemple que vous connaissez bien et qui vous tient à cœur, c'est celui de l'île d'Idjoui. C'est au milieu du lac Kivu. Comment est-ce qu'on peut la décrire et surtout comment se fait-il que cette île soit en paix depuis quoi, 97 quasiment ? Il n'y a pas de violence depuis 1997.
Oui, depuis que les combattants rwandais sont partis de l'île, il n'y a pas eu de violence de masse. Donc c'est une île qui est d'abord absolument magnifique, complètement perdue au milieu du lac Kivu. Et c'est une île qui a en elle, qui a tous les éléments qui ont mené à une violence de masse dans les provinces aux alentours du Congo. Quand on parle de violence de masse, vous le disiez en introduction, on parle de 5,5 millions de déplacés. On parle de la guerre la plus meurtrière depuis la Deuxième Guerre mondiale, donc 3 à 6 millions de morts suivant les estimations. Donc vraiment, ce sont des provinces qui sont extrêmement en prise à la violence. Et pourtant, à Idjoui, qui est en plein milieu de ces provinces, on n'a pas vu de violence de masse. Et tous les éléments sont là. Donc il y a des minéraux de conflit, il y a une pauvreté extrême, il y a des tensions ethniques, il y a ces conflits locaux dont je vous parlais autour de la terre, etc. Et pourtant, à Idjoui, c'est les habitants eux-mêmes qui ont construit la paix, c'est les communautés eux-mêmes qui ont construit la paix sans aide de l'État, sans aide d'intervention internationale.
Et pourquoi alors ? Comment elles s'y sont prises ? Alors, c'est peut-être parce que c'est une île, 260 000 habitants, 310 km², est-ce que c'est son insularité qui fait sa particularité ?
Mais non, pas du tout. Quand on regarde les îles, par exemple, sur le lac d'à côté, sur le lac Albert, les îles sont proies à la violence. Quand on regarde juste sur une péninsule, pas loin d'Idjoui, on voit qu'il y a les Maïmaï et la Yakutumba qui font une violence extrême. Non, non, ce qui se passe à Idjoui, encore une fois, c'est vraiment les habitants, les résidents eux-mêmes. Donc ce qu'ils ont fait, c'est que d'abord, ils se voient comme un peuple de la paix. Ils ont construit une culture de la paix. Ils n'arrêtent pas de me dire quand j'y suis, « Ah mais nous on est des gens pacifiques, on n'est pas comme nos voisins qui, eux, sont violents. » Donc eux se voient comme des gens de la paix. Et donc, quand les grands-pères se réunissent avec les petits autour des veillées, ils leur inculquent ce que c'est d'être un peuple de la paix. On ne se bat pas, on n'utilise pas la violence. C'est vraiment une valeur qui est ancrée dans l'île. En plus de ça, il y a énormément d'associations locales, de sages-femmes, d'enseignants, de vieux du village qui sont là pour aider à résoudre les conflits, pour éviter que les conflits éruptent, deviennent des conflits armés et violents.
Il y a une sorte de pacte de sang aussi entre les familles.
Voilà, il y a des croyances qui sont très ancrées, qui sont très populaires. Donc par exemple, le pacte de sang lit quasiment toutes les familles de l'île. Et c'est un pacte traditionnel. Bon, on met son sang dans un verre, l'autre famille, etc. Et c'est l'idée de dire, à partir du moment où on a fait ce pacte, si jamais on agresse quelqu'un d'une famille avec qui on est lié, le malheur va s'abattre sur nous. On va mourir, on va avoir les maladies, les récoltes vont être détruites. Donc on n'ose plus jamais faire du mal aux autres familles. Et ça aide vraiment à maintenir la paix.
Et donc, cet exemple vous paraît important, Séverine Autesserre, pour dire non, la violence n'est pas une fatalité au Congo et on peut créer la paix sans casque bleu avec des fusils automatiques.
Exactement, parce que tout ce qu'on entend sur le Congo en général, c'est la violence, la guerre, etc. Et Idjoui, les gens nous montrent que bah, pas du tout. Il y a une manière de construire la paix qui vient d'en bas, qui s'appuie sur les communautés, qui marche beaucoup, beaucoup mieux que toutes ces interventions internationales dont on parlait, que l'envoi des casques bleus.
Et pourtant, il est question, là, en ce moment, il est question d'envoyer des renforts de casques bleus en soutien à l'armée congolaise, comme en 2013.
Oui, et encore une fois, comme d'habitude, on répond à la violence par la violence, par le déploiement des armées, et c'est quelque chose qui n'a jamais marché au Congo et qui ne va probablement, malheureusement, pas marcher dans les années qui viennent.
Merci beaucoup, Séverine Autesserre, d'avoir été avec nous en studio ce matin. Je rappelle que vous êtes professeure des universités et directrice du département de sciences politiques à la faculté Barnard de l'université Columbia à New York et que vous venez de traduire en français votre récent livre « The Frontline of Peace » paru aux presses de l'université d'Oxford. Merci beaucoup.
Merci, les enjeux, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour de nouveaux enjeux territoriaux et de nouveaux enjeux internationaux à 6h10 et 6h45.
France Culture, l'esprit d'ouverture.